Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonjour Stéphane, dites-moi, avez-vous apprécié tous les cadeaux qu'on vous a offerts pendant les fêtes ? Pas besoin de me répondre, je vous rassure, la bienséance vous oblige à ne pas me dire ce que vous en pensez sincèrement. De mon côté, sûrement guidé par mon irrévérencieuse jeunesse, je dois dire que certains m'emmerdent. Je pense à un cadeau en particulier, qu'on a tous reçu un peu en retard sous le sapin ce 9 janvier. Le gouvernement Attal. Bon, ce n'est que mon avis bien sûr, et il est tout à fait normal qu'il ne soit pas partagé par toutes et tous. Cependant, il y a parmi les petits nouveaux sur les bancs des ministres, une personne qui, dans un temps record, semble déjà faire l'unanimité contre elle. Amélie Oudéa Castéra. Son parcours est pourtant semblable à tous les autres. Passage par Sciences Po, l'ESSEC, l'ENA dans la même proportion qu'Emmanuel Macron, passage par la Cour des comptes comme haute fonctionnaire, puis reconversion dans le privé, rien ou presque ne devrait la différencier de ses compères. Mais c'est sans compter sur son talent caché digne de Gaston Lagaffe, étonné de se prendre sur la tête le seau d'eau qu'il a lui-même placé sur le haut de la porte entrouverte. En effet, le 12 janvier, donc seulement 3 jours après sa nomination, la porte entrouverte est jouée par sa première sortie de terrain dans un établissement scolaire et le seau d'eau par l'éducation nationale, c'est-à-dire l'un de ses propres Marocains ministériels. Et voici le gag. Un journaliste s'adresse à elle en lui demandant si son choix de placer son enfant au lycée privé Stanislas, en insistant sur le fait que celui-ci est accusé de propager des discours homophobes et anti-avortement à ses élèves, est un révélateur de la politique qu'elle souhaite mener dans son ministère. Bien que cette question semble au prime abord interroger sa vie privée, elle concerne en réalité tout le pays. Est-ce que notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale a l'intention de mener une politique conciliante avec les discours rétrogrades dispensés dans certains établissements scolaires, ou pire, d'en faire la promotion ? Et voilà la chute. Ne comprenant vraisemblablement pas la question en l'interprétant comme une attaque personnelle, celle-ci tente de justifier son choix d'avoir placé son fils dans cette école privée en tirant à boulets rouges sur l'école publique dans son intégralité. Elle incrimine des paquets d'heures non remplacées, dont des centaines de milliers de familles comme la sienne seraient aussi victimes. Saupoudrer cela d'une supposée baisse du niveau dans le public, d'un soupçon de peur de l'insécurité dans ces établissements, et concluer magiquement en disant qu'il n'existe qu'une seule école, celle de la République, alors que vous venez de décrire l'exacte situation inverse. Elle est d'ailleurs prise en flagrant délit de mensonge, car il a été prouvé que le fils dont elle parle n'a été scolarisé dans le public que 6 mois, en petite section de maternelle, et que sa maîtresse de l'époque n'avait jamais manqué à l'appel durant ce laps de temps. Et ceci, sous le regard déliquescent du Premier ministre, son propre prédécesseur à ce ministère. En d'autres termes, Amélie Oudéa Castéra vient de relancer la guerre scolaire. Il s'agit en fait d'un débat qui a cours en France depuis la Révolution sur la place de la religion et de l'État dans l'enseignement. Les partisans d'un enseignement confessionnel ou laïque se font face, tandis que flotte entre les deux camps une masse de gens qui oscillent au gré du temps de chaque côté. Ces grandes batailles sont celles de la loi Falloux en 1850, qui différencie d'un côté l'enseignement public, géré par l'État, de l'autre l'enseignement privé, dit « libre », géré par des particuliers, des associations ou des congrégations religieuses. Viennent ensuite les lois Ferry et Goblet de 1881 à 1886, qui visent à laïciser l'enseignement public en rendant l'école gratuite et obligatoire. D'autres heurts se sont produits aussi en 1904 avec l'interdiction des congrégations enseignantes et surtout avec la loi de séparation des églises et de l'État en 1905 en supprimant définitivement toute notion religieuse dans l'enseignement public. Enfin, les plus anciens d'entre vous s'en rappellent sûrement, la dernière bataille en date fut celle de la loi Savary de 1982 à 1984. Elle aboutit sur la victoire du camp dit des deux écoles, ou de l'école dite libre encore une fois, qui se voyait grandement menacée par cette loi. Il faut noter tout de même que ce débat ne se limite pas à l'enseignement confessionnel ou non, mais aussi à la liberté éducative dans son ensemble. Par exemple, un parent qui souhaite donner une instruction immersive en breton à son enfant ne peut aujourd'hui pas le faire dans une école publique, mais uniquement dans une école privée et laïque du réseau d'Iwan. Mais alors, aujourd'hui, que se passe-t-il ? Par ces propos, Notre ministre vient non seulement de cracher sur 7 ans de bilan de sa majorité sur ce sujet, mais aussi de nous donner sa vision de ce système à deux écoles. Le privé donnerait de meilleures conditions d'instruction et de réussite à ses élèves, là où le public, par des problèmes de gestion, n'aurait plus les mêmes conditions à offrir. Mais est-ce vrai? Avec un taux de réussite au baccalauréat général de 95% en 2022, si différence il y a, alors celle-ci doit se tenir dans un mouchoir de poche. Dès lors, est-ce vraiment la séparation entre public et privé qui est pointée du doigt? Prenez ces trois lycées, Stanislas, Houlouis-le-Grand, Henri IV. Tous trois des lycées dits « d'excellence », où les bambins de l'élite de la nation se retrouvent presque exclusivement entre eux et où ceux-ci sont promis aux mêmes avenirs brillants. Prenez maintenant deux lycées lambda, l'un privé et l'autre public, dans un territoire lambda. Bien souvent, ceux-ci disposent presque de la même mixité sociale, des mêmes conditions d'études, ont autant de remplacements non assurés et ont tout autant de profs qui doutent de l'avenir de leur métier. Enfin, prenez un collège public dans un centre-ville cossu d'une métropole et un collège privé en zone rurale. À votre avis, outre l'enseignement confessionnel, où se situe la différence? Ce faux débat entre public et privé en masque en réalité un autre, celui du séparatisme social. Le séparatisme d'une élite qui souhaite reproduire sa réussite en s'excluant de la masse, qui, elle, serait porteuse d'échecs. Dès lors, posons-lui cette question. Madame Oudéa Castéra, serez-vous la ministre de tous les enfants ou seulement des vôtres?
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.